pourquoi j'écris. Enfin, je dis quelquefois parce qu'on m'a dit d'écrire.
Nous vivons quand même un temps où la chose écrite compte de moins en moins, à cause probablement du brouhaha général.
Simplement, l'écriture sèche, nue, comme ça. Terrible.
Qu'est-ce à dire ? Si ce n'est que partout où la colonisation s'est manifestée, des peuples entiers ont été vidés de leur culture, vidés de toute culture.
Bah, finalement, il ne tient pas tellement la bouteille, c'est l'écrivain américain.
Un anti-parlementaire.
Voilà, un muet, c'est un anti-parlementaire.
Un muet, c'est un anti-parlementaire.
Mais un athée.
Un athée, c'est un anti-moine.
Voilà, un croyant.
Aucun croyant, c'est un antiseptique.
Voilà. Et les Arabes du Caire
sont antisémites.
Et les sémites
sont anti-caire.
Voilà.
Je crois que ma vocation est nulle et qu'au fond, j'obéis aux autres, mais pas à moi-même.
Lectrice, auditeur et vice-versa, soyez les bienvenus dans Du vent dans les pages, dernière édition. Et oui, l'été approche avec son lot de farniente, période propice pour se gaver de cornets de glace et de lecture. Ça tombe bien puisque mes invités Anne et Catherine vous ont concocté une playbook pour vos chères vacances, il y en aura pour tous les goûts. En attendant, on retrouve tout de suite la chronique d'Alex qui vous a également préparé de quoi flatter votre plaisir de lire. Alice a mis ses tongs pour parer à l'abordage et la poésie de cette dernière émission restera exceptionnellement en France avec un jeune poète de passage. Vous écoutez Du vent dans les pages sur Studio Zef.
Page volante, aventure et mésaventures littéraires.
Par Alex Dauzier.
Viatique littéraire. L'été arrive, les vacances approchent et se repose l'éternelle question : quel livre vais-je emporter ? D'aucuns vous conseilleront le dernier roman à la mode, d'autres le livre qu'ils viennent de lire. Je vais donc rajouter ma petite pierre à l'édifice en vous conseillant de vous replonger dans quelques volumes un peu anciens, mais qui vous apporteront le sentiment bienheureux d'avoir lu un bon livre. On a parlé de certains d'entre eux ici, au travers de ces chroniques, par exemple « Fiction » de Jorge Luis Borges, merveilleux recueil de nouvelles qui vous emportera dans un univers aux multiples dimensions. Pour les amateurs de nouvelles, n'hésitez pas à lire « La nuit sous le pont de pierre » de Léo Pérutz, nouvelle à tiroir où certains personnages se retrouvent d'aventure en aventure dans cette Europe centrale où les différentes cultures s'entremêlent. Ou encore « Les nouvelles orientales » de Marguerite Yourcenar, petites merveilles d'histoires courtes qui vous feront aimer l'Extrême-Orient. Si vous préférez les ambiances historiques, retrouvez les bords du Danube avec Joseph Roth dans la crypte des Capucins et revivez l'effondrement de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Pour les amateurs de sagas familiales, un petit Zola ne fait jamais de mal. Je recommande Poubouille pour se délecter de la vie et des misères de cet immeuble parisien, roman de mœurs ô combien éternel. Si vous l'avez déjà lu, tournez-vous vers Thomas Mann et les Budenbrock. Vous saurez tout sur la vie des bourgeois de Lübeck et ses non moins grandes misères. Au rayon des histoires merveilleuses, La promesse de l'aube de Romain Gary avec sa mère en héroïne fabuleuse et de Joseph Kessel, Les mains du miracle, récit extraordinaire et vrai du masseur de Himmler qui a sauvé des milliers de vies. Ou encore Le palanquin des larmes de Georges Walter, retraçant la vie de Shao Xingli et quasiment toute l'histoire de la Chine au XXe siècle. Pour ceux qui n'auraient pas beaucoup de temps à consacrer à la lecture, en une heure, on peut lire Knock de Jules Romain et retrouver sous ses mots la voix de Louis Jouvet. Si vous pouvez consacrer tout un après-midi, lisez La lettre dans un taxi de Louise de Villemorin, une petite histoire toute simple, toute belle à l'écriture joyeuse, style que vous retrouverez dans Bernard Quesnay d'André Mauroy, histoire de famille où les sentiments sont plus profonds et les destinées inévitables, tout comme Le destin de Robert Shannon, incomparable roman de Cronin. Enfin, pour ceux qui veulent plutôt se détendre, je recommande Dieu, Shakespeare et moi de Woody Allen, qui contient quelques morceaux d'anthologie, et pour terminer, un ouvrage de Douglas Adams, à la traduction française tout aussi étrange que son contenu, beau comme un aéroport, retraçant une partie des aventures de Dirk Gentle, un détective holistique. Il ne vous reste plus qu'à vous rendre dans votre librairie préférée et retrouver tous ces titres. Ils existent tous en poche. Alors à ce moment précis, posez votre pile et choisissez en plus 4 ou 5 volumes qui auront croisé votre regard lors de votre recherche. N'hésitez pas à les prendre, il n'y a jamais de bons conseils de lecture, il n'y a que les livres que l'on rencontre et qui vous attendent et qui, d'une certaine façon, ont été écrits pour vous. Voilà, bonnes vacances et bonne lecture sans modération.
Vozes do meu rádio, oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo, oh. Quero acordar do sonho agora mesmo, oh. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e vê-lhe voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar de um tempo. De onde eu vim, o mundo azul. Trajetória escapa o risco nu. As nuvens queimam o céu, o nariz azul. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Na lua o lado escuro é sempre igual. No espaço a solidão é tão normal. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Sempre está lá e vê-lhe voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e vê-lhe voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Eu vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo. De onde eu vi o mundo azul. Estar lá e vê-lhe voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver e voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Eu vou chorar sem medo, eu vou lembrar do tempo. De onde eu vi o mundo azul.
Vous êtes toujours dans l'émission Du vent dans les pages. On se retrouve donc pour le plateau des invités au Café Fluxus, comme la dernière fois, avec des habitués du vent dans les pages. Surtout Anne, d'ailleurs. Bonjour Anne.
Merci, bonjour.
Vous allez bien ?
Oui, oui, je vais très bien.
Bon, très bien, merci. Catherine, bonjour.
Bonjour.
De retour. Vous avez fait des lectures pour les enfants à Jazine.
Exactement.
Voilà, oui. À Jazine. Et puis ici, une fois à Studio Zef.
Plusieurs voilà. fois.
Plusieurs même. Fois voilà. même. Ouais, oui. Ouais. Non, mais c'est pour ça, vous êtes une habituée. Ouais, c'est bien ce que je disais. Alors, Du vent dans les pages, c'est la dernière émission pour cette année. On se retrouvera de toute façon l'année prochaine pour d'autres projets radiophoniques sur Studio Zef. Hein. Tenez-vous au courant, n'hésitez pas à aller sur le site. Voilà. Donc aujourd'hui, on est là pour parler bien sûr de littérature et de lecture surtout, puisque je vous ai demandé, Catherine et Anne, de venir avec des coups de cœur, des choses que vous aimez lire, pour faire partager à nos auditeurs et auditrices le plaisir de la lecture. Donc on va vous écouter lire et puis à la fin de cette émission, on donnera des petits conseils de lecture aussi pour terminer l'année en beauté. Hein, on va faire ça, Anne.
Très bien.
Allez-y.
Bien, alors moi j'ai pris un livre de Colette parce que j'adore Colette. C'est déjà une bonne raison.
Oui.
C'est un auteur qui date du début du 20e siècle puisque le livre que je vais entamer est Sido. Qui est l'histoire de sa mère, qui date de 1901. Mais on pourrait retrouver la même chose maintenant. Dans mon quartier natal, on n'eut pas compté 20 maisons privées de jardins. Les plus mal partagées jouissaient d'une cour, plantée ou non, couverte ou non de treilles. Chaque façade cachait un jardin de derrière, profond, tenant aux autres jardins de derrière par des murs mitoyens. Ces jardins de derrière donnaient le ton au village. On y vivait l'été, on y lessivait, on y fendait le bois l'hiver, on y besognait en toute saison, et les enfants, jouant sous les hangars, perchaient sur les ridelles des chars à foin dételés. Il y avait dans ce temps-là de grands hivers, de brûlants étés. J'ai connu depuis des étés dont la couleur, si je ferme les yeux, est celle de la terre aux creuses, fendillée entre les tiges du blé et sous la géante ombelle du panaï sauvage, celle de la mer grise ou bleue. Mais aucun été, sauf ceux de mon enfance, ne commémore le géranium écarlate et la hampe enflammée des digitales. Celle-ci fusant des bois taillis, ceux-là en rampe allumée le long de la terrasse, c'est de votre reflet que ma joue d'enfant reçut un don vermeil. Car Sido, ma mère, aimait au jardin le rouge, le rose, les sanguines filles du rosier, de la croix de Malte, des hortensias et des bâtons de Saint-Jacques. Tout le chaud jardin se nourrissait d'une lumière jaune à tremblements rouges et violets. Mais je ne pourrais dire si ce rouge, ce violet, dépendait ou dépend encore d'un sentimental bonheur ou d'un éblouissement optique. Été réverbéré par le gravier jaune et chaud, été traversant le jonc tressé de mes grands chapeaux, été presque sans nuit. Car j'aimais tant l'aube déjà que ma mère me l'accordait en récompense. J'obtenais qu'elle m'éveillât à 3h30, et je m'en allais, un panier vide à chaque bras, vers des terres maraîchères qui se réfugiaient dans le pli étroit de la rivière, vers les fraises, les cassis et les groseilles barbues. Je revenais à la cloche de la première messe, mais pas avant d'avoir mangé tout mon sou, pas avant d'avoir dans les bois décrit un grand circuit de chiens qui chassent seuls et goûté l'eau de deux sources perdues, que je rêverais. L'une se haussait hors de la terre par une convulsion cristalline, une sorte de sanglot, et traçait elle-même son lit sableux. Elle se décourageait aussitôt née et replongeait sous la terre. L'autre source, presque invisible, froissait l'herbe comme un serpent, s'étalait secrète au centre d'un pré où des narcisses, fleuries en rond, attestaient seules sa présence. La première avait goût de feuilles de chêne, la seconde de fer et de tiges de jacinthe. Rien qu'à parler d'elles, je souhaite que leur saveur m'emplisse la bouche au moment où tout finit et que j'emporte avec moi cette gorgée imaginaire. Alors ça, c'est un texte magnifique, je trouve, et qui se rapporte à son enfance.
On y est, hein. Elle nous emmène.
Tout à fait.
Vraiment.
Alors, je vais vous lire le second et on fera une comparaison.
Ah oui, vous voulez comparer les deux textes.
Oui, parce qu'en fait, c'est un parallèle.
D'accord.
Alors, mon deuxième texte est un texte d'Olivier de Kersauzon sur un livre qui s'appelle Ocean Song, qui est absolument magnifique, et sa rencontre avec la mer. L'Atlantique est ce guide complet de la création romanesque pour les écrivains de mer. C'est notre vieil académicien avec son bicorne d'écume qui n'aurait pas pris une ride, mais juste une légère marque à l'œil. Il y a des moments de mer qui se ressemblent, ces clapots, ces lumières, ces scintillements d'émeraude, ces reflets d'opaline. Je me souviens de cette traversée Cape Town-Rio avec Eric sur Penduite 3 en 1971. J'ai le souvenir des côtes brésiliennes, de ces pêcheurs sur leur radeau à 30 milles au large dans ce courant froid qui descend de Cabo Frio. En remontant la côte vers la Guyane, la mer prend soudain l'aspect d'un sirop de châtaigne, c'est renversant. La mer est bleue, puis tout d'un coup marron. Une limite nette en pleine mer. D'un tapis bleu, le bateau glisse sur un plancher passé à l'encaustique. Comme le Rio Negro est noir et que ce noir se mêle avec le Havane de l'Amazone, cela donne à l'eau le même teint cuivré des populations du nord du Brésil. La mer est alors une étoffe de velours tiède que l'étrave découpe dans le doux chointement de la lame. J'ai traversé toutes les mers pour gagner leur délicate puissance, pour leur vierge solitude, pour l'exactitude de leur colère. L'Atlantique fut ce premier amour. Je reste toujours séduit par cet océan, si on sait accepter avec patience l'enchantement de sa peinture. Je suis venu pour le grand océan. J'ai ressenti cet appel dès mon premier tour du monde en 73. Et l'Atlantique Sud, alors, une côte qui commence à l'équateur et qui va jusqu'au 25e degré sud. Quand on passe l'Uruguay et le long des côtes argentines, il s'agit d'un autre monde. Une côte rugueuse, dure, avec le pampero, ce coup de vent qui descend des montagnes, facilement 65 nœuds de vent. Que de trois mâts ont été mis au tas. C'est le souffle d'un train de marchandises s'engouffrant dans un tunnel. Puis l'Atlantique Sud, c'est déjà d'autres couleurs, d'autres odeurs. Les bleus perdent de leur couleur, ils perdent de leur sérénité, ils deviennent foncés comme un coup de crayon noir dans la toile. C'est un coup de fusain dans le paysage. C'est la chambre noire dans laquelle défilent les nuages. On voit apparaître, très au nord, les premiers albatros. Le Grand Sud est juste derrière cette frontière. Le clair-obscur est la fin des voluptés entrevues. Pour peu que le vent vienne du sud, les températures chutent d'un coup net. Cette côte argentine, quand on approche Mar del Plata, est le royaume des lions de mer. On est immédiatement pris par la forte respiration des altitudes qui enveloppent la mer. Le Rio de la Plata, qui descend des Andes, apporte cette bouffée d'oxygène aspirée des hauts plateaux. Nous avons dégringolé les longitudes, la porte du monde sauvage peut s'ouvrir. Voilà, ça c'est un premier amour, une première rencontre avec la mer, un coup de foudre. C'est pour moi un des plus beaux, des plus belles descriptions des mers sauvages, des mers du Sud, ouais. Des mers rencontrées par des grands capitaines. Ça explique aussi leur capacité à supporter les plus grands efforts, les plus grandes souffrances, pour pouvoir justement apprécier ça. Alors, pourquoi j'ai fait une comparaison avec Colette ? Eh bien, c'est une comparaison de style. Ce sont deux auteurs qui écrivent superbement, avec des descriptions détaillées, un vocabulaire extrêmement ciselé, repris, retravaillé, remodelé. On a l'impression, autant pour l'un que pour l'autre, qu'on n'est pas seulement en face d'un paysage, on est en face d'un tissu qu'on peut manipuler, on est en face en même temps d'un amour, d'une passion, de quelque chose qui les a poursuivis toute leur vie, autant Colette, sa Bourgogne natale, que Olivier de Kersauzon, les mers sauvages.
Mais c'est quand même en rapport avec l'environnement, la nature.
C'est
quelque chose de très viscéral, quoi.
L'œuvre de Colette tourne autour de la nature, qu'elle parle de la Bretagne, qu'elle parle, quand elle décrit les paysages du blé en herbe, c'est absolument magnifique. Quand elle parle de la treille muscate à Saint-Tropez, c'est vraiment superbe. Il y a un livre qu'elle a écrit qui s'appelle La retraite sentimentale, qui est en fait un roman qui est la suite des Claudines et qui décrit une maison en Bourgogne où elle a fait justement cette retraite après la mort de son mari. Vous lisez ça, vous avez une nostalgie de la nature. En fait, c'est ça ce qu'elle veut transmettre.
Ouais, ouais, ouais.
Et Kersauzon, on comprend son côté fier, son côté abrupt. Il ne retrouve pas dans la civilisation ce qu'il trouve dans les mers du Sud.
C'est particulièrement ça que vous aimez chez ces deux auteurs, cette proximité avec,
exactement.
Avec cette, finalement, ça convoque les sens les plus aigus.
C'est aussi ce besoin de solitude. Si j'ai un petit peu de temps encore.
Allez-y, je vous en prie.
Allez-y. Un petit paragraphe. Je ne suis jamais fatiguée de la solitude. C'est souvent une corvée d'en sortir. Être seule me permet des débordements avec moi-même et de me sentir grisée par le silence. Je peux rester assise sur un banc sous les châtaigniers 3 heures en correspondance avec moi-même. Aucune fatigue et une jubilation intellectuelle au bout du compte. Seule, je brûle d'activité. J'évapore de la pensée en parole. Un atelier de fumigation à moi tout seul. La solitude me permet de faire passer avec une vertigineuse rapidité images, idées, rêves fous, hypothèses cinglées, mais parfois fécondes, et ainsi de remonter le film de ma vie. Ça résume parfaitement.
Oui. Donc ça, c'est le dernier paragraphe là.
C'est presque à la fin.
C'est presque à la fin.
C'est dans le dernier.
Tout le livre est ténu comme ça. Enfin, oui. Voilà, avec beaucoup de.
Tout à fait. Chaque
un
chapitre.
Un descriptif assez poussé.
Chaque chapitre se porte sur quelque chose. Vous avez un chapitre sur la Polynésie, un chapitre sur les Antilles, un autre sur la Pérouse, un autre sur un de ses ancêtres qui s'appelait Robert de Kersauzon. Et qui était grand découvreur en Afrique du Sud, etc.
On peut dire que c'est un roman.
Non, c'est pas vraiment ça. Un roman, je dirais que c'est un essai sur la mer.
Oui, D'accord.
Une vision de... Ouais. Voilà, si je vais plus vous
plus qu'un, plus qu'un dire, récit de voyage
C'est un récit de pensée sur le voyage.
Ouais.
Voilà.
D'accord.
Qui se passe en voyage.
Est-ce que vous pouvez rappeler les titres
Bien sûr.
Des Alors, livres
De Colette, c'est Sido, mm-hmm. entièrement consacré à sa mère. Et d'Olivier de Kersauzon, c'est Ocean Song et c'est Artaud Poche.
Très bien. Merci beaucoup, Anne.
Je vous en prie.
Catherine, d'abord, est-ce que tu veux réagir peut-être sur les lectures
Non, non,
les,
je suis complètement partie. et dans la campagne et dans la mer, ça fonctionne. Donc j'ai vraiment apprécié. Mais j'avoue que moi, je n'ai pas du tout envisagé l'exercice, si on peut dire, de la même façon. Puisque
c'est très bien.
On appuie sur un texte.
Mais oui.
Voilà. Tout à fait. Tout à fait mais...
Et puis, Colette, même si ce sont ses souvenirs, on est aussi dans le roman, donc dans la fiction, enfin la liberté du roman. Et là, donc moi, on avait parlé de nouvelles, j'ai voulu tester la nouvelle. Ah oui. La nouvelle, c'est un court roman, enfin, il y a toutes les définitions possibles, mais on est normalement dans la fiction. Et je me suis amusée en choisissant une nouvelle qui donne plutôt l'apparence du récit, alors que c'est vraiment une fiction.
Très bien. Non, mais c'est bien que tu abordes ça, parce que c'est vrai qu'on en avait parlé, effectivement, la nouvelle, c'est un peu boudée.
C'est très curieux. Moi, j'avais essayé de monter un prix de la nouvelle. Parce que, en fin de compte, les gens ont beaucoup de mal. Ça, c'est curieux parce qu'on pourrait se dire, la nouvelle, c'est facile puisque c'est court.
Tout à fait.
Oui, mais en fait,
pas du
tout.
Je ne parle pas de l'écriture, je parle que du plaisir de la lecture. Je laisse aux auteurs l'écriture. Mais malgré tout, ça n'est pas si simple que ça.
Oui.
D'abord, justement, pour l'écriture, il y a une sorte de concentré. Il y a des règles, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il faut tenir le lecteur. Il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas toujours faciles à maîtriser en tant qu'auteur, mais même pour le lecteur. C'est à la fois un plaisir, parce qu'il y a cette rapidité, mais quand on rentre dans une nouvelle... Quand on rentre vraiment dans une nouvelle, on est déçu que ce ne soit pas un roman, parfois.
Oui,
donc
oui,
il y a
oui,
aussi cette
une espèce
frustration.
De frustration. Oui, tout à fait. Ouais.
C'est pour ça qu'on y en a des recueils. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait quand on en a fini une, on en commence une autre.
C'est ça.
Voilà. Alors, c'est vrai que la nouvelle, ça peut être quelques pages, ça peut être très court, et ça peut être vraiment des courts romans, parfois de presque 100 pages. Hein. Il y en a qui ont le sens de la nouvelle un peu... Voilà, donc c'est assez varié, et c'est de tout temps.
Oui, exactement.
Alors, c'est vrai que ça a beaucoup démarré au 19e, puisque vous êtes passionné de l'histoire, puisqu'il y a aussi ce côté narration avec le principe du feuilleton, entre guillemets, c'est-à-dire d'histoires courtes qu'on retrouve toutes les semaines. Donc, beaucoup de très grands auteurs ont écrit des histoires courtes comme ça. Voilà, mais ça continue.
Et le texte que tu veux nous lire,
j'ai choisi un texte.
C'est lequel, alors?
Je ne sais pas si je vais vous dire ce que c'est, je vous le dirai après.
D'accord.
Parce qu'en fin de compte, on pourrait imaginer que c'est une histoire très écologique, tout à fait de notre temps. Il y a environ une quarantaine d'années, je faisais une longue course à pied sur des hauteurs absolument inconnues des touristes dans cette très vieille région des Alpes qui pénètre en Provence. Je traversais ce pays dans sa plus grande largeur et après 3 jours de marche, je me trouvais dans une désolation sans exemple. Je campais à côté d'un squelette de village abandonné. Je n'avais plus d'eau depuis la veille et il me fallait en trouver. Ces maisons agglomérées, quoiqu'en ruines, comme un vieux nid de guêpes, me firent penser qu'il avait dû y avoir là, dans le temps, une fontaine ou un puits. Il y avait bien une fontaine, mais sèche. Les 5 à 6 maisons sans toiture, rongées de vent et de pluie, la petite chapelle au clocher écroulé était rangée comme le sont les maisons et les chapelles dans les villages vivants, mais toute vie avait disparu. C'était un beau jour de juin avec grand soleil, mais sur ces terres sans abri et hautes dans le ciel, le vent soufflait avec une brutalité insupportable. Ses grondements dans les carcasses des maisons étaient ceux d'un fauve dérangé dans son repas. Il me fallut lever le camp. À 5 heures de marche de là, je n'avais toujours pas trouvé d'eau et rien ne pouvait me donner l'espoir d'en trouver. C'était partout la même sécheresse, les mêmes herbes ligneuses. Il me sembla apercevoir dans le lointain une petite silhouette noire, debout. Je la pris pour le tronc d'un arbre solitaire. À tout hasard, je me dirigeai vers elle. C'était un berger. Une 30aine de moutons couchés sur la terre brûlante se reposaient près de lui. Il me fit boire à sa gourde. Et un peu plus tard, il me conduisit à sa bergerie dans une ondulation du plateau. Il tirait son eau excellente d'un trou naturel très profond au-dessus duquel il avait installé un treuil rudimentaire. Cet homme parlait peu. C'était le fait des solitaires, mais on le sentait sûr de lui et confiant dans cette assurance. C'était insolite dans ce pays dépouillé de tout. Il n'habitait pas une cabane, mais une vraie maison en pierre, où l'on voyait très bien comment son travail personnel avait rapiécé la ruine qu'il avait trouvée là à son arrivée. Son toit était solide et étanche. Le vent qui le frappait faisait sur les tuiles le bruit de la mer sur les plages. Son ménage était en ordre, sa vaisselle lavée, son parquet balayé, son fusil graissé, sa soupe bouillée sur le feu. Je remarquai alors qu'il était aussi rasé de frais, que tous ses boutons étaient solidement cousus, que ses vêtements étaient reprisés avec le soin minutieux qui rend les reprises invisibles. Il me fit partager sa soupe et comme après je lui offrais ma blague à tabac, il me dit qu'il ne fumait pas. Son chien, silencieux comme lui, était bienveillant sans bassesse. Il avait été entendu tout de suite que je passerais la nuit là, le village le plus proche étant encore à plus d'une journée et demie de marche. Et au surplus, je connaissais parfaitement le caractère des rares villages de cette région. Il y en a 4 ou 5 dispersés loin des uns des autres sur les flancs de ces hauteurs, dans les taillis de chênes blancs à la toute extrémité des routes carrossables. Ils sont habités par des bûcherons qui font du charbon de bois. Ce sont des endroits où l'on vit mal. Les familles serrées les unes contre les autres dans ce climat qui est d'une russesse excessive, aussi bien l'été que l'hiver, exaspère leur égoïsme en vase clos. L'ambition irraisonnée s'y démesure dans le désir continu de s'échapper de cet endroit. Le berger, qui ne fumait pas, alla chercher un petit sac et déversa sur la table un tas de glands. Il se mit à les examiner l'un après l'autre avec beaucoup d'attention, séparant les bons des mauvais. Je fumais ma pipe, je me proposais pour l'aider. Il me dit que c'était son affaire. En effet, voyant le soin qu'il mettait à ce travail, je n'insistais pas. Ce fut toute notre conversation. Quand il eut du côté des bons un tas de glands assez gros, il les compta par paquets de 10. Ce faisant, il éliminait encore les petits fruits ou ceux qui étaient légèrement fendillés, car il les examinait de fort près. Quand il eut ainsi devant lui 100 glands parfaits, il s'arrêta et nous allâmes nous coucher. La société de cet homme donnait la paix. Et je lui demandai le lendemain la permission de me reposer tout le jour chez lui. Il le trouva tout naturel, ou plus exactement, il me donna l'impression que rien ne pouvait le déranger. Ce repos ne m'était pas absolument obligatoire, mais j'étais intriguée, je voulais en savoir plus. Il fit sortir son troupeau et le mena à la pâture. Avant de partir, il trempa dans un seau d'eau le petit sac où il avait mis les glands soigneusement choisis et comptés. Je remarquai qu'en guise de bâton, il emportait une tringle de fer, grosse comme le pouce, et longue environ 1,50 m. Je fis celui qui se promène en se reposant et je suivis une route parallèle à la sienne. La pâture de ses bêtes était dans un fond de combe. Il laissa le petit troupeau à la garde du chien et il monta vers l'endroit où je me tenais. J'eus peur qu'il vînt pour me reprocher mon indiscrétion, mais pas du tout. C'était sa route et il m'invita à l'accompagner si je n'avais rien de mieux à faire. Il allait à 200 mètres de là, sur la hauteur. Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland, puis il rebouchait le trou. Il plantait des chênes. Je lui demandai si la terre lui appartenait. Il me répondit que non. Savait-il à qui elle était ? Il ne savait pas. Il supposait que c'était une terre communale ou peut-être était-elle la propriété de gens qui ne s'en souciaient pas. Lui ne se souciait pas de connaître les propriétaires. Il planta ainsi sa 100aine de glands avec un soin extrême. Après le repas de midi, il recommença à trier sa semence. Je mis, je crois, assez d'insistance dans mes questions puisqu'il y répondit. Depuis 3 ans, il plantait des arbres dans cette solitude. Il en avait planté 100 000. Sur les 100 000, 20 000 étaient sortis. Sur ces 20 000, il comptait encore en perdre la moitié du fait des rongeurs ou de tout ce qu'il y a d'impossible à prévoir dans les desseins de la Providence. Restaient 10 000 chênes qui allaient pousser dans cet endroit où il n'y avait rien auparavant. C'est à ce moment-là que je me souciais de l'âge de cet homme. Il avait visiblement plus de 50 ans. 55, me dit-il. Il s'appelait Elzéar Bouffier. Il avait possédé une ferme dans les plaines, il avait réalisé sa vie. Il avait perdu son fils unique, puis sa femme. Il s'était retiré dans la solitude où il prenait plaisir à vivre lentement avec ses brebis et son chien. Il avait jugé que ce pays mourait par manque d'arbres. Il ajouta que n'ayant pas d'occupation très importante, il avait résolu de remédier à cet état de choses. menant moi-même à ce moment-là, malgré mon jeune âge, une vie solitaire. Je savais toucher avec délicatesse aux âmes des solitaires. Cependant, je commis une faute. Mon jeune âge, précisément, me forçait à imaginer l'avenir en fonction de moi-même et d'une certaine recherche du bonheur. Je lui dis que dans 30 ans, ces 10 000 chaînes seraient magnifiques. Il me répondit très simplement que si Dieu lui prêtait vie dans 30 ans, il en aurait planté tellement d'autres que ces 10 000 seraient comme une goutte d'eau dans la mer. Il étudiait déjà d'ailleurs la reproduction des hêtres. Il avait près de sa maison une pépinière issue des faines. Les sujets qu'il avait protégés de ses moutons par une barrière en grillage étaient de toute beauté. Il pensait également à des bouleaux pour les fonds où, me dit-il, une certaine humidité dormait à quelques mètres de la surface du sol. Nous nous séparâmes le lendemain. L'année d'après, il y eut la guerre de 14, laquelle je fus engagée pendant 5 ans. Un soldat d'infanterie ne pouvait guère y réfléchir à des arbres. À dire vrai, la chose même n'avait pas marqué en moi. Je l'avais considéré comme un dada, une collection de timbres et oublié. Sortie de la guerre, je me trouvais à la tête d'une prime de démobilisation minuscule, mais avec le grand désir de respirer un peu d'air pur. C'est sans idée préconçue, sauf celle-là, que je repris le chemin de ces contrées désertes. Le pays n'avait pas changé. Toutefois, au-delà du village mort, j'aperçus dans le lointain une sorte de brouillard gris qui recouvrait les hauteurs comme un tapis. Depuis la veille, je m'étais remis à penser à ce berger planteur d'arbres. 10 000 chênes, me disais-je, occupent vraiment un très large espace. J'avais vu mourir trop de monde pendant 5 ans pour ne pas imaginer facilement la mort d'Elzéar Bouffier, d'autant que lorsqu'on a 20 ans, on considère les hommes de 50 comme des vieillards à qui il ne reste plus qu'à mourir. Il n'était pas mort. Il était même fort vert. Il avait changé de métier. Il ne possédait plus que 4 brebis, mais par contre, 100 de ruches. Il s'était débarrassé des moutons qui mettaient en péril ses plantations d'arbres. Car, me dit-il, et je le constatais, il ne s'était pas du tout soucié de la guerre. Il avait imperturbablement continué à planter. Les chênes de 1910 avaient alors 10 ans et étaient plus hauts que moi et que lui. Le spectacle était impressionnant. J'étais littéralement privée de parole. Et comme lui ne parlait pas, nous passâmes tout le jour en silence à nous promener dans sa forêt. Il avait en 3 tronçons 11 kilomètres dans sa plus grande largeur. Quand on se souvenait que tout était sorti de ses mains et de l'âme de cet homme sans moyens techniques, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction. Il avait suivi son idée et les hêtres qui m'arrivaient aux épaules, répandus à perte de vue, en témoignaient. Les chênes étaient drus et avaient dépassé l'âge où ils étaient à la merci des rongeurs. Quant au dessein de la Providence elle-même pour détruire l'œuvre créée, il lui faudrait avoir désormais recours aux cyclones. Il me montra d'admirables bosquets de bouleaux qui dataient de 5 ans, c'est-à-dire de 1915, de l'époque où je combattais à Verdun. Il leur avait fait occuper tout le fond où ils soupçonnaient avec juste raison qu'il y avait de l'humidité presque à fleur de terre. Ils étaient tendres comme des adolescents et très décidés. La création avait l'air d'ailleurs de s'opérer en chaîne. Il ne s'en souciait pas. Il poursuivait obstinément sa tâche, très simple. Mais en redescendant par le village, je vis couler de l'eau dans des ruisseaux qui, de mémoire d'homme, avaient toujours été à sec. C'était la plus formidable opération de réaction qui m'ait été donnée de voir. Ces ruisseaux secs avaient jadis porté de l'eau dans des temps très anciens. Certains de ces villages tristes dont j'ai parlé au début de mon récit s'étaient construits sur les emplacements d'anciens villages gallo-romains dont il était resté encore des traces, dans lesquels les archéologues avaient fouillé. Et ils avaient trouvé des hameçons à des endroits où, au XXe siècle, on était obligé d'avoir recours à des citernes pour avoir un peu d'eau. Le vent aussi dispersait certaines graines, en même temps que l'eau réapparut, réapparaissaient les saules, les osiers, les prés, les jardins, les fleurs et une certaine raison de vivre. Mais la transformation s'opérait si lentement qu'elle entrait dans l'habitude sans provoquer d'étonnement. Les chasseurs qui montaient dans les solitudes à la poursuite des lièvres ou des sangliers avaient bien constaté le foisonnement des petits arbres, mais ils l'avaient mis sur le compte des malices naturelles de la terre. C'est pourquoi personne ne touchait à l'œuvre de cet homme. Si on l'avait soupçonné, on l'aurait contrarié. Il était insoupçonnable. Qui aurait pu imaginer dans les villages et dans les administrations une telle obstination dans la générosité la plus magnifique ? À partir de 1920, je ne suis jamais restée plus d'un an sans rendre visite à Elzéar Bouffier. Je ne l'ai jamais vu fléchir ni douter, et pourtant Dieu sait si Dieu même y pousse. Je n'ai pas fait le compte de ses déboires. On imagine bien cependant que pour une réussite semblable, il a fallu vaincre l'adversité, que pour assurer la victoire d'une telle passion, il a fallu lutter avec le désespoir. Il avait pendant un an planté plus de 10 000 érables. Ils moururent tous. L'an d'après, il abandonna les érables pour reprendre les hêtres qui réussirent encore mieux que les chênes. Pour avoir une idée un peu exacte de ce caractère exceptionnel, il ne faut pas oublier qu'il s'exerçait dans une solitude totale, si totale que vers la fin de sa vie, il avait perdu l'habitude de parler. Ou peut-être n'en voyait-il pas la nécessité. En 1933, il reçut la visite d'un garde forestier éberlué. Ce fonctionnaire lui intima l'ordre de ne pas faire de feu dehors, de peur de mettre en danger la croissance de cette forêt naturelle. C'était la première fois, lui dit cet homme naïf, qu'on voyait une forêt pousser toute seule. À cette époque, il allait planter des hêtres à 12 km de sa maison. Pour s'éviter le trajet d'aller-retour, car il avait alors 75 ans, il envisageait de construire une cabane de pierre sur les lieux mêmes de ses plantations, ce qu'il fit l'année d'après. En 1935, une véritable délégation administrative a examiné la forêt naturelle. Il y avait un grand personnage des eaux et forêts, un député, des techniciens. On prononça beaucoup de paroles inutiles. On décida de faire quelque chose et heureusement, on ne fit rien. Sinon la seule chose utile, mettre la forêt sous la sauvegarde de l'État et y interdire qu'on vienne y charbonner. Car il était impossible de n'être pas subjugué par la beauté de ces jeunes arbres en pleine santé. Et elle exerça son pouvoir de séduction sur le député lui-même. J'avais un ami parmi les capitaines forestiers qui étaient de la délégation. Je lui expliquai le mystère. Un jour de la semaine d'après, nous allâmes tous les deux à la recherche d'Elzé Arbouffier. Nous le trouvâmes en plein travail, à 20 km de l'endroit où il a eu lieu l'inspection. Ce capitaine forestier n'était pas mon ami pour rien. Il connaissait la valeur des choses, il sut rester silencieux. J'offris les quelques œufs que j'avais apportés en présent, nous partageâmes notre casse-croûte en trois, et quelques heures passèrent dans la contemplation muette du paysage. Le côté d'où nous venions était couvert d'arbres de 6 à 7 mètres de haut. Je me souvenais de l'aspect du pays en 1913, le désert. Le travail paisible et régulier, l'air vif des hauteurs, la frugalité et surtout la sérénité de l'âme avaient donné à ce vieillard une santé presque solennelle. C'était un athlète de Dieu. Je me demandais combien d'hectares il allait encore couvrir d'arbres. Avant de partir, mon ami fit simplement une brève suggestion à propos de certaines essences auxquelles le terrain d'ici paraissait devoir convenir. Il n'insista pas, pour la bonne raison, me dit-il après, que ce bonhomme en sait plus que moi. Au bout d'une heure de marche, l'idée ayant fait son chemin en lui, il ajouta « Il en sait beaucoup plus que tout le monde, il a trouvé un fameux moyen d'être heureux ». C'est grâce à ce capitaine que non seulement la forêt, mais le bonheur de cet homme furent protégés. Il fit nommer trois gardes forestiers pour cette protection. Il les terrorisa de telle façon qu'ils restèrent insensibles à tous les pots de vin que les bûcherons pouvaient proposer. L'œuvre ne courut aucun risque grave que pendant la guerre de 1939. Les automobiles marchant alors au gazogène, on n'avait jamais assez de bois. On commença à faire des coupes dans les chaînes de 1910, mais ces quartiers sont si éloignés de tout réseau routier que l'entreprise se révéla très mauvaise au point de vue financier. On l'abandonna. Le berger n'avait rien vu. Il était à 30 km de là, continuant paisiblement sa besogne, ignorant la guerre de 1939 comme il avait ignoré la guerre de 1914. J'ai vu Elzé Arbouffier pour la dernière fois en juin 1945. Il avait alors 87 ans. J'avais donc repris la route du désert, mais maintenant, malgré le délabrement dans lequel la guerre avait laissé le pays, il y avait un car qui faisait le service entre la vallée de la Durance et la montagne. Je mis sur le compte de ce moyen de transport relativement rapide le fait que je ne reconnaissais plus les lieux de mes premières promenades. Il me semblait aussi que l'itinéraire me faisait passer par des endroits nouveaux. J'eus besoin d'un nom de village pour conclure que j'étais bien cependant dans cette région jadis en ruine et désolée. Le car me débarqua à Vergon. En 1913, ce hameau de 10 à 12 maisons avait 3 habitants. Ils étaient sauvages, se détestaient, vivaient de chasse au piège, à peu près dans l'état physique et moral des hommes de la préhistoire. Tout était changé. L'air lui-même, au lieu des bourrasques sèches et brutales qui m'accueillaient jadis, soufflait une brise souple, chargée d'odeurs. Un bruit semblable à celui de l'eau venait des hauteurs. C'était celui du vent dans les forêts. Enfin, chose plus étonnante, j'entendis le vrai bruit de l'eau coulant dans un bassin. Je vis qu'on avait fait une fontaine, qu'elle était abondante, et ce qui me toucha le plus, on avait planté près d'elle un tilleul qui pouvait déjà avoir dans les 4 ans déjà gras, symbole incontestable d'une résurrection. À partir de là, je fis mon chemin à pied. La guerre dont nous sortions à peine n'avait pas permis l'épanouissement complet de la vie, mais Lazare, était hors du tombeau. Sur les flancs abaissés de la montagne, je voyais de petits champs d'orge et de seigle en herbe. Au fond des étroites vallées, quelques prairies verdissaient. Il n'a fallu que les 8 ans qui nous séparent de cette époque pour que tout le pays resplendisse de santé et d'aisance. Sur l'emplacement des ruines que j'avais vues en 1913, s'élèvent maintenant des fermes propres, bien crépies, qui dénotent une vie heureuse et confortable. Les vieilles sources, alimentées par les pluies et les neiges que retiennent les forêts, se sont remises à couler. On a canalisé les eaux. À côté de chaque ferme, dans des bosquets d'érables, les bassins des fontaines débordent sur des tapis de monde fraîche. Les villages se sont reconstruits peu à peu. Une population venue des plaines où la terre se vend chère s'est fixée dans le pays, y apportant de la jeunesse, du mouvement, de l'esprit d'aventure. On rencontre dans les chemins des hommes et des femmes bien nourris, des garçons et des filles qui savent rire et ont repris goût aux fêtes campagnardes. Si on compte l'ancienne population méconnaissable depuis qu'elle vit avec douceur et les nouveaux venus, plus de 10 000 personnes doivent leur bonheur à Elzéard Bouffier. Quand je réfléchis qu'un homme seul, réduit à ses simples ressources physiques et morales, a suffi pour faire surgir du désert ce pays de Canaan, je trouve que malgré tout, la condition humaine est admirable. Mais quand je fais le compte de tout ce qu'il a fallu de constance dans la grandeur d'âme et d'acharnement dans la générosité pour obtenir ce résultat, je suis pris d'un immense respect pour ce vieux paysan sans culture qui a su mener à bien cette œuvre digne de Dieu. Elzéard Bouffier est mort paisiblement en 1947 à l'hospice de Bannon. Bon, alors je n'avais pas dit le titre, mais vu les allusions, on se doute bien que ce n'est pas un roman récent, donc c'est une nouvelle de Jean Giono. Et en fait, c'est un véritable roman. Ce monsieur n'a jamais existé, bien sûr. On y croit complètement.
Ah, complètement. Tout à fait, on entre dedans, on le suit avec beaucoup d'intérêt.
Et je trouve que la langue est très belle. C'est du Giono.
C'est du Giono, bien mais sûr.
Plus sans concertation, on reste encore dans la terre, la nature.
Et ça pourrait être une fable très contemporaine.
Oui, complètement.
Alors que je pense que la démarche de Giono n'est pas une démarche particulièrement
écologique. J'adore les allusions aux députés. c'est mon côté anti-politique.
Donc, il avait l'intelligence de ne rien faire.
Exactement.
Donc, voilà, c'était un ouvrage, je crois, qu'il a écrit où ça a été publié en 1953. Donc, ça commence à dater.
D'accord. Voilà. Tu peux rappeler le titre ?
C'est L'homme qui plantait des arbres, donc écrit par Jean Giono. Vous pouvez le trouver dans les éditions complètes de Giono, dans la Pléiade. Et donc, pour dire que c'est une lecture pour tous, celle que j'ai entre les mains, c'est un folio cadet, c'est-à-dire c'est une édition pour les enfants.
Ouais. Voilà. Oui, je vois sur la 4e de couve à partir de 9 ans.
Voilà, donc voilà, je me suis dit, il faut offrir une lecture pour tous.
Ouais. Voilà, exactement.
Super, très bien, merci beaucoup.
Pas trop long ?
Non, c'est très beau. On va terminer sur quelques conseils de lecture pour l'été.
Tout à fait.
Voilà, ou même pour l'hiver, pour tout le temps, quoi.
Oui, oui. Hein. Pour l'été, puisque c'est l'été carrément.
Allez, Catherine, pendant que tu y es.
Alors, moi, j'ai peut-être un clin d'œil, parce que moi, mes lectures d'été ne sont peut-être pas toujours faciles, mais j'ai, pour rebondir sur Olivier de Kersauzon, il y a quelques romans ou quelques livres qui ont un lien avec la mer. Alors, j'avais pensé, alors, je ne sais plus si je l'ai noté là, parce que comme je n'ai pas de tête, je suis obligée de noter.
Oui, je comprends.
Voilà, je crois que je l'avais mis là. Là, c'est un roman d'une navigatrice, Isabelle Autissier, qui s'appelle Soudain Seul. Je ne sais pas si vous l'avez lu.
Oui, je l'ai lu.
Donc, on le trouve chez Stock, donc édition de poche, donc pas cher.
Et passionnant.
Il a été publié en 2015. Ouais. Alors, on est tranquille sur la plage parce que là, ça n'est pas facile. C'est l'histoire d'un couple qui part sur un voilier faire le tour du monde, qui s'arrête sur une petite île interdite, normalement. Mmh. Et il leur arrive des aventures terribles, enfin, même très, très graves.
D'accord.
Mais le roman se lit tout seul. On est pris par l'histoire de ces deux personnages. Et c'est aussi une belle leçon de vie, je pense. Et Isabelle Autissier n'écrit pas mal du tout.
Tout à fait.
On peut le trouver en poche ou
Oui, c'est chez Stock.
D'accord.
Poche, oui.
Très bien.
Voilà.
Et puis, t'en as un autre,
de l'eau, alors j'avais repensé. Alors, un autre roman, c'est un premier roman de l'année dernière, de 2016. Alors, celui-là, c'est pareil. Si vous êtes au chaud sur votre serviette, tranquille, avec une petite boisson fraîche, ça va vous décoiffer. Ça s'appelle Le Grand Marin de Catherine Poulain. Je ne sais pas si vous l'avez lu. J'ai adoré ce roman. C'est un premier roman. Et vraiment, pour moi, personnellement, qui, je pense, n'ira jamais sur un bateau de pêche en Alaska, vous pouvez vivre une aventure terrible, horrible, de cette, donc cette, parce que en plus cette jeune femme, ça pourrait être un récit, mais c'est vraiment un roman avec une langue superbe et très forte. Et elle part, je crois qu'elle part pendant 10 ans ou 15 ans pêcher en Alaska. Donc c'est pas la Méditerranée, hein, c'est le froid, c'est les mains gourdes, c'est le sang des bêtes. Enfin c'est terrible. Et on vit avec elle et on vit une expérience extraordinaire. Mais heureusement, on est bien sur sa serviette tranquille. Et puis le petit dernier, alors là, c'est pas spécialement sur l'eau, mais c'est sur tout le tour de la Terre. Et c'est pas du tout un roman, là. Alors là, il est plus ancien. Je sais pas quand il l'a écrit, mais il y a peut-être 4-5 ans. Je sais plus. Ça, c'est un récit. C'est un jeune homme, à l'époque, qui est parti faire le tour du monde à pied. Et comme Paris, il avait décidé de ne pas dépenser un centime pour se déplacer. Donc, il a tout fait en stop. Ça s'appelle Le Monde en stop. L'auteur s'appelle Ludovic Hubler, H-U-B-L-E-R. Et ça a été publié en pocket, donc c'est aussi du poche. Et pour ceux qui aiment les aventures, on fait le... Alors, bien sûr, il découvre des paysages fabuleux parce qu'il y va partout, mais surtout, il rencontre des gens extraordinaires. Et il ose, dans des pays comme en Amérique latine, où tout le monde lui a dit surtout de ne pas faire de stop, de ne pas dormir à la Belle Étoile. Il a fait tout ça. Et sa rencontre, comme il dit, avec les pauvres. Les pauvres de la terre, c'est sa plus belle richesse. Ça a été extraordinaire. Donc, je vous le conseille pour le bonheur, si vous avez envie de découvrir des paysages et des pays incroyables, pour l'aventure, parce qu'on se demande comment il va réussir. Il partait pour un an, je crois. Ça a duré 5 ans. Voilà. Mais c'est une superbe découverte du monde et des humains.
Alors, la question que je me pose, c'est pour ces personnes qui font des aventures extraordinaires, comment retombe-t-on dans la vie grise de tous les jours ?
En fait, alors il avait fait des études, il avait fait des études brillantes et donc il devait avoir un avenir tout tracé et il avait décidé de partir un peu à l'ancienne, faire son tour du monde et tout le monde lui avait dit bon c'est bien mais surtout ne dépasse pas 6 mois parce qu'après tu pourras plus te réinsérer dans la vie. En fait de 6 mois il est parti 5 ans, mais pour lui il dit un moment j'ai un doctorat de la route. Alors, il s'est énormément enrichi et en fait, il s'est mis à travailler dans l'humanitaire, dans tout ce domaine. D'accord. Alors, il a appris les langues, en plus. Et chaque fois, dans un pays, il apprenait au moins quelques bribes, puisqu'il a fait du stop, donc il fallait échanger. Mm-hmm. Et même avec les gens avec lesquels il ne pouvait rien dire, et la force des mains, des yeux, enfin, c'est vraiment une leçon de vie, et ce n'est qu'un récit, c'est-à-dire c'est une histoire vraie.
Est-ce que
si vous ne voulez pas les acheter, en plus, je crois que tous ceux que je vous ai cités, ils sont à la bibliothèque avec Grégoire.
Bon, très
surtout
bien.
Avec les prêts d'été, vous pouvez les prendre pour 6 semaines.
Non, mais vas-y, important. Catherine, fais de la pub, n'hésite pas.
Oh, non, moi, je fais de la pub, mais bien sûr, vous pouvez, comme ils sont bons, vous pouvez les acheter, parce qu'après, on peut les donner sans hésiter.
Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour ces conseils. Est-ce qu'on reste sous le signe du voyage avec vos conseils, Anna?
Oui et non. Histoire. Non, pas vraiment. Pas vraiment. En fait, j'ai été chercher un livre de Victoria Hislop. Victoria Hislop a eu beaucoup de succès ces 2 dernières années. Elle a écrit un livre magnifique qui s'appelle L'île des oubliés. Sur, vous en avez peut-être entendu parler. Alors, celui-ci s'appelle Une dernière danse. Il est consacré à la guerre d'Espagne. Il s'agit d'une famille de Grenade avec 4 enfants. Il y en a du côté franquiste, il y en a du côté républicain. C'est une famille qui est déchirée par la guerre. Et en même temps, par là-dessus, il y a une histoire d'amour fou qui se greffe, une histoire de danse. Et c'est absolument magnifique. Donc, c'est haletant, on n'arrive pas à lâcher.
On n'arrive pas à décrocher.
Voilà, ça, on risque d'oublier d'aller se baigner. ça, c'est le premier.
Rappelez-nous.
Alors, le titre, c'est Victoria Hislop, H-I-S-L-O-P. Une dernière danse. Oui, Victoria Hislop, c'est l'auteur. Une dernière danse et c'est au livre de poche.
Très bien.
Alors, le deuxième, suivant, c'est tout à fait différent. C'est William Boyd, un auteur connu. Et il a écrit un livre qui s'appelle Les vies multiples d'Amory Clay. Alors, Amaury Clay, c'est le personnage important de ce livre et c'est une photographe. Et elle commence par être une simple petite photographe mondaine et elle continue. Le pic de sa vie, c'est qu'elle devient photographe de guerre. Et en fait, William Boyd a repris un certain nombre de vies de photographes qui ont réellement existé. La plus connue, c'est Lee Miller, qui a été la muse de Man Ray et qui a été la première personne entrant dans le camp de Dachau, où elle était journaliste de guerre pour Vogue. Et la vie de Lee Miller a été racontée par Marc Lambron. Là, c'est déjà beaucoup plus facile à lire, mais la critique d'Olivia de Lamberterie, qui est la grande critique de Elle, dit « un livre qu'on dévore, qu'on vit, qu'on voit ». Voilà, alors ça, c'est le numéro 2. Je reconnais que je ne l'ai pas lâché facilement.
Celui-là non plus.
On ne va jamais se baigner avec vous. Hein.
On va attraper des coups de soleil, enfin bon, ça va être
le cauchemar. Le troisième, c'est « Les amours personnels ». C'est un livre de Sophie Chauveau. Sophie Chauveau a écrit des vies de Léonard de Vinci, de Filippo Lippi, etc. Et celui-là, c'est un des derniers. Il s'appelle Fragonard, l'invention du bonheur. Et nous nous trouvons au XVIIIe siècle dans un monde de peinture, au milieu des ateliers du Louvre. Nous nous trouvons à Rome, à la Villa Médicis, avec un Fragonard qui ne veut pas faire le tableau d'histoire qu'il doit faire et qui s'en va dans la campagne lutiner les servantes. Enfin, c'est effectivement un livre qui vous laisse une notion d'optimisme. On n'en est pas au XVIIIe siècle, Révolution française, tête coupée, pas du tout, du tout. C'est Fragonard, c'est Madame de Pompadour, c'est le XVIIIe siècle, gay, avec des bergères, avec... Superbe. Donc c'est de Sophie Chauveau et c'est chez Folio.
Très bien.
Voilà. Alors, et puis je redonne.
Oui, allez-y.
De Kersauzon parce que je pense que c'est un livre à lire quand on est sur la plage, tout à fait. Et si vous n'avez pas envie d'apprendre à piloter un bateau après ça, eh bien, c'est que vraiment j'aurais raté mon information. Donc, Ocean Songs, les chants de l'océan, par Olivier de Kersauzon, en poche.
Merci. Et je me permets d'avoir sélectionné effectivement moi aussi trois livres très rapidement, dont une BD. D'abord, « Mille femmes blanches », les carnets de May Dodd de Jim Fergus. C'est en poche au Cherche Midi. Donc c'est un passionné, Jim Fergus est un passionné de l'histoire des Indiens d'Amérique. Je vous résume très rapidement le décor historique, d'ailleurs une histoire vraie.
Tout à fait.
Qui est absolument incroyable. Donc en 1874, le président Grant accepte dans le plus grand secret la proposition incroyable du chef indien Little Wolf, troquer 1000 femmes blanches contre chevaux et bisons pour favoriser l'intégration du peuple indien. Si quelques femmes sont volontaires, la plupart viennent des asiles et des pénitenciers de toute l'Amérique. C'est donc l'histoire de May Dodd au sein de sa tribu d'adoption. Le tome 2 vient de paraître qui s'appelle La vengeance des mères. Vraiment, c'est une histoire incroyable. C'est très, très bien écrit. C'est pareil, moi je trouve que on ne lâche pas du début jusqu'à la fin. Très rapidement, en 2014, on a fêté les 50 ans de Mafalda. Alors Mafalda, c'est un petit personnage bande dessinée que moi je lis depuis.
Claire Bretcher.
Kino.
C'est
Kino. Ouais. Voilà. Non, c'est pas Brett Eschet. C'est Kino. Alors Kino, c'est un auteur argentin qui a vécu la dictature, qui a vécu la torture, qui n'a jamais été en colère, mais qui par contre s'est servi de son petit personnage Mafalda, qui est une petite fille qui est résolument anticonformiste, qui ne comprend pas du tout le monde des adultes, il profite à travers ce personnage pour dire des choses sur la société argentine, bien sûr, des années 70, mais ça résonne dans notre actualité encore aujourd'hui. C'est absolument incroyable. Je vous invite à relire les albums de Mafalda. C'est vraiment absolument génial pour les petits et pour les grands. Et enfin, le dernier, ça commence comme ça. Hein. À 20 ans, ils étaient punks. Et à 50, à quoi ressemble leur vie ? Alors, Virginie Despentes, on aime ou on déteste. Moi, j'aime. Subutex. Voilà, Vernon Subutex.
J'ai hâte du troisième, moi.
Voilà. Vernon Subutex, c'est l'histoire de cet homme d'un disquaire DJ. Voilà, avec sa petite bande complètement iconoclaste, complètement déjantée. C'est un très beau portrait au vitriol, comme on dit, de la société française contemporaine. Virginie Despentes, entre son premier roman et celui-ci, le tome 3 vient de paraître. Parce que c'est une trilogie, hein, Vernon Subutex. Ça n'a rien à voir, mais on ressent la patte effectivement punk. Virginie Despentes a une histoire assez extraordinaire, hein, dont elle en parle très bien d'ailleurs dans un de ses romans, King Kong Theory. Elle est cash et punk. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc, ça, c'est bien aussi pour la plage.
Au moins, on en a. Là, on peut avoir les trois volumes d'un coup. Alors,
là, je ne sais pas, il vous faut une valise entre la serviette de bain. Enfin, bon, bref. Eh bien, écoutez, sur ce, on va se quitter. L'émission continue. Catherine et Anne, je vous remercie vraiment infiniment pour vos participations multiples à mon émission. Voilà, je vous souhaite une excellente continuation. On se croisera pour d'autres émissions, j'en suis sûre. Du vent dans les pages, ça continue avec la chronique d'Alice et le mot métis, la poésie voyageuse. À très bientôt.
Contre les idées reçues. Pour cette dernière chronique de l'année, nous allons parler revenu universel. Alors certes, la mesure ne risque pas d'être appliquée pendant les 5 prochaines années et la présidentielle est terminée. Mais justement, il peut être intéressant de se pencher sur le sujet loin de toute passion politique et puis avec un peu de recul. Puis bon, maintenant que le revenu universel a été clairement mis au centre des débats sociaux et politiques, il y a de fortes chances qu'il refasse surface à plus ou moins long terme. Le petit essai du jour s'intitule donc « Faut-il un revenu universel ?» et il est paru cette année aux éditions de l'Atelier. Il s'agit d'un ouvrage collectif signé des économistes atterrés de la Fondation Copernic et puis qui est coordonné par Jean-Marie Haribet et Christiane Marty. Alors, amateurs de polar, passez votre chemin. Les auteurs ne vous feront pas mariner jusqu'à la fin du livre pour vous donner la réponse. Dès l'introduction, ils affirment leur refus du revenu universel. Intéressant. De la part d'économistes hétérodoxes, à contre-courant de la pensée majoritaire. Bah oui, parce qu'en fait le sujet divise la gauche et peut tout à fait être défendu par les tenants du libéralisme le plus débridé. Et c'est d'ailleurs l'un de leurs principaux griefs à l'égard de la mesure phare de Benoît Hamon. Pour les auteurs, le revenu universel n'est rien de moins qu'une façon d'individualiser les citoyens en leur accordant un revenu avec lequel ils devront se débrouiller. Et il faut savoir quand même que certains projets libéraux proposent d'éliminer toutes les prestations sociales en échange du fameux revenu de base. Alors face à l'argument qui consiste à dire que doté d'un revenu minimum, le demandeur d'emploi sera plus fort pour négocier son salaire ou ses conditions de travail, bah là les auteurs s'esclavent quasiment en se demandant qui pourra sérieusement s'opposer à un employeur tout puissant en échange de 750 à 1000 euros par mois. Selon eux, et c'est pas faux, le RMI puis le RSA n'ont pas rendu les citoyens plus forts face aux entreprises. Et selon eux, c'est considéré que doté de son revenu de base, bah, l'individu a toutes les clés en main et doit se débrouiller dans un rapport de force en sa défaveur. Alors, sur le plan économique, les auteurs expliquent que le financement du projet est également problématique. Ni les économistes atterrés, ni la Fondation Copernic ne sont connus pour leur propension à vouloir couper dans les dépenses publiques. Mais là, ils s'accordent pour dire que la mesure coûterait très cher. Alors, selon les scénarios, pour un revenu de base de 500 à 1000 euros, le besoin de financement s'étale entre 179 et 470 milliards d'euros. Enfin, ça tourne plus souvent autour de 300 milliards. Alors, certains imaginent un financement par l'impôt, d'autres une augmentation considérable de la CSG et de la CRDS, d'autres envisagent carrément de diminuer les retraites ou les prestations sociales. Bref, concluent les auteurs, à part passer par la création monétaire, verser un revenu universel d'un montant plus élevé que le RSA supposerait de renoncer à d'autres prestations sociales, voire à des pans entiers de la protection sociale comme l'assurance maladie. Quid de la répartition des revenus du capital, soufflent déjà les pro-revenus universels. Mais c'est justement là qu'on atteint le point d'achoppement philosophique le plus intéressant sur le sujet. Les auteurs de « Faut-il un revenu universel ?» sont en fait en total désaccord avec la notion de disparition du travail qui est en fait au cœur du débat. Pour eux, le travail est et doit rester un facteur d'intégration sociale. Et selon eux, adopter le revenu universel, ce serait revenir sur les grandes conquêtes sociales du XIXe siècle qui ont vu le travail s'accompagner de multiples protections. Ils soulignent d'ailleurs que l'idée selon laquelle le plein emploi est devenu impossible s'est curieusement développée dans les années 80-90, notamment par l'OCDE et les rapports du commissariat au plan, soit dit en passant, qui était dirigé par Alain Minc, au moment même où les politiques néolibérales laissaient filer le chômage, ce qui n'est peut-être pas un hasard. Donc pour les auteurs de ce petit essai, nier la dimension d'intégration du travail revient à théoriser une société thatchérienne composée d'individus. Chacun se débrouille dans son coin avec ce qu'on lui accorde. Or, selon les auteurs, les problèmes sociaux appellent des réponses de solidarité collective. Et sur ce point d'achoppement, les auteurs vont même plus loin en faisant des femmes des victimes du revenu universel. Parce que permettre aux individus de pratiquer une activité non rémunérée grâce à un revenu de base, c'est bien. Mais c'est risqué de voir les femmes encore plus cantonnées aux tâches ménagères dont elles ont déjà toutes les peines du monde à se défaire. Et là, on n'est plus très loin de la notion de salaire maternel. En fait, c'est le droit de travailler qui est en cause. Nous ne pouvons accepter de faire de la protection sociale la voiture balai des ravages du capitalisme financiarisé, écrivent les auteurs. En fait, plus qu'un revenu universel, eux, ils proposent d'améliorer les minima sociaux, mais de relancer l'emploi à travers un plan d'investissement pour la transition sociale et écologique ou à travers la relance des services publics. Mais surtout, ils veulent poursuivre une avancée majeure de ces 20 dernières années, à savoir la réduction du temps de travail, pour partager le travail, pour améliorer les conditions de travail et pour dégager du temps de vie personnelle. En somme, c'est deux façons de partager les revenus du capital qui s'opposent. Bref, je vous recommande vivement ce petit ouvrage de 136 pages. Ça coûte 10 euros et c'est une contribution fort intéressante au débat.
C'est fou ce qu'on fait pour la thune. Encore un coup de l'empereur du plastique. Moralité élastique. La fille du tchèque vient de se marier en blanc. Cela dit en dévoilant la compta de son amant apparatchik. C'est fou ce qu'on fait pour le fric. J'ai des gros problèmes d'argent. Je vais m'en sortir mais je ne sais pas comment. Moi qui gagnais des mille et des cents, je suis dans la gêne momentanément. J'ai des gros problèmes d'argent. Je vais m'en sortir mais je ne sais pas comment. Que le caviar a un goût amer quand on est comme moi à découvert. J'ai des gros problèmes d'argent. Des gros problèmes d'argent. J'ai des gros problèmes d'argent. J'envoie mes dons au nouveau roi du monde. Je m'endors sur son programme. Faudrait pas que la race s'éteigne en blonde. Imaginez un peu le drame. Sur la plage d'une république bananée, c'est toujours les mêmes qui se mouillent. Au fond des bois, je les entends tirer. Et c'est encore moi qui douille. J'ai des gros problèmes d'argent. Je vais m'en sortir, mais je ne sais pas comment. Moi qui gagnais des mille et des cents, je suis dans la gêne momentanément. J'ai des gros problèmes d'argent. Je vais m'en sortir, mais je ne sais pas comment. Que le caviar a un goût amer quand on est comme moi découvert. J'ai des gros problèmes d'argent. Des gros problèmes d'argent. D'indicibles problèmes d'argent. J'ai d'énormes problèmes d'argent. J'ai des gros problèmes d'argent. Josée appelle son fils qui est de la police. Elle a cafeté son patron. Coffré alors qu'il passait en Suisse sa petite combinaison. Le patron sponsorisé par un vicomte dans la nuit a découvert. S'est fait virer en secret sur son compte l'adagio au goût amer. J'ai deux gros problèmes d'argent. Je vais m'en sortir, mais je ne sais pas comment. Moi qui gagnais des mille et des cents, je suis dans la gêne momentanément. J'ai des gros problèmes d'argent. Je vais m'en sortir, mais je ne sais pas comment. Mes actions coulent, pleurent et tiganent. Mes actions coulent comme le champagne. J'ai des gros problèmes d'argent.
Merci. Merci.
Mométis, la poésie voyageuse. Kevin commence à écrire des paroles de rap. Il a 22 ans, curieux du monde qui l'entoure, il part vivre un an en Australie, fait des études de lettres et en vient naturellement à la poésie qu'il compose de manière épisodique et fragmentée, d'où le titre de son premier recueil, Épisoème. Écoutons quelques poèmes de sa création.
L'homme qui vaut 1000 euros. Je porte ma chemise WSC, mon bonnet Carhartt, ma veste Vans, mon jean Levi's, mes chaussures Timberland, mon écharpe Jules, mon boxer Dim, mes chaussettes Adidas, dans mon sac Eastpak au cas où mon caouet de North Face, ma montre Nixon, direction la manif pour les droits de l'homme, je ne porte pas d'esprit. Mardi 9. Plutôt que les fleurs, un parterre de chewing-gum séché, et dans un rabattement de paupières, y voir des étoiles du sol. Au trottoir et au trop tard, je suis familier. Entre deux nuits qui tombent, je me ramasse. La publicité putassière du décor se hisse de toutes parts. La mode sous perfusion. L'acte le plus périlleux du jour reste la traversée de la chaussée. Des pornflex et du popcorn en métal devant la télévisière à contre-emploi éblouissante de foutaise. Perquisition du temps pétri de Roland. Nous vivons dans une époque de porc. Épique. J'ai mes chips, légumes, mon nectar d'abricot et mon cerveau caillé. J'enregistre la révolution, le match est retransmis. Les déçus de la rue se répètent sur magnétoscope obsolète. C'est la fête, c'est la fête. Restaurant bondé, musique bonne, film drôle, clochards pas si nombreux, réfugiés noyés dans une mer, dans la merde ou dans le média. Seule ta playlist tourne rondement, un cœur qui bat comme Coltrane chante et joue A Love Supreme, 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 la prophétie du Sun Ra, Nuclear War, Nuclear War, l'avertissement de Hill Scott Heron. Revolution will not be televised. Et si elle l'était, nous la zapperions, comme un chagrin, par habitude. Pchit ! Plus je change, plus je me ressemble. Jeune, X, Y, K, H, à l'infinitif ou mal conjugué. Catoplébase en talons bouclés aux oreilles, attouchés par le bruit. S'agglutinent les facettes boudantes, un au plus bas solide comme l'ennui. Les barres brisent les barrières, les bas biaisent les manières. Ton mojis capte les vibrations de mon mojo. Pchit, pchit, spray de lac sur ma calvitie, comme ma tête est brillante. Conseil pratique numéro 1. Réalité pure. Évitez le contact avec les yeux ou rincer abondamment.
Et voilà, c'est fini pour cette belle année radiophonique avec du vent dans les pages. Je tiens à remercier chaleureusement Alice et Alex qui m'ont accompagnée dans cette belle aventure littéraire. Un grand merci à tous les participantes et participants, ainsi qu'à vous, chers auditeurs, lectrices et vice-versa. Et n'oubliez pas d'emmener votre radio sur la plage pour écouter à fond Studio Zef. Vous allez voir, on se fait vite des amis. Je vous souhaite d'excellentes vacances pour celles et ceux qui en ont. À bientôt à la radio.